C'est l'heure du journal de la rédaction présenté par vous, Sophie Delpont. Bonsoir.
Bonsoir Julie Cacon, bonsoir à tous. L'avocat de plusieurs familles de victimes de l'attentat de la rue des Rosiers demande la levée du secret défense. Après les révélations de l'ancien patron du renseignement français évoquant un accord passé entre ses services et le groupe terroriste responsable de l'attaque qui avait fait 6 morts et 22 blessés il y a 37 ans jour pour jour. Précision d'Antoine Marette dans ce journal. Le dernier hommage rendu au maire de Signes et ses obsèques ont eu lieu ce matin dans sa commune du Var. Emmanuel Macron n'y était pas directement mais il a promis une réponse ferme, exemplaire et sans complaisance aux incivilités dans un message lu par sa ministre de la Cohésion des Territoires. Décryptage avec Anne Fauquemberg dans un instant. À Hong Kong, la chef de l'exécutif refuse la moindre concession et met en garde contre des conséquences économiques graves après presque 2 mois de manifestations. Et puis en Tunisie, le Premier ministre Youssef Chahed vient de déclarer sa candidature pour l'élection présidentielle anticipée de septembre. La liste des prétendants compte désormais 69 candidats. Explication à suivre avec Valérie Crova. L'attentat de la rue des Rosiers, c'était il y a 37 ans, jour pour jour à Paris. Après l'explosion d'une grenade, 2 tueurs ouvraient le feu dans un restaurant de ce quartier juif. Le commando composé de 3 à 5 hommes armés avait ensuite remonté la rue et tiré sur des passants, faisant 6 morts et 22 blessés. 37 ans après, Le Parisien a révélé ce matin que l'ancien patron du renseignement français, Yves Bonnet, avait reconnu en janvier dernier devant un juge avoir passé un accord à l'époque avec le groupe terroriste responsable de l'attentat, le Fatah. Conseil révolutionnaire, un groupe palestinien dissident de l'OLP. Les membres de ce groupe pouvaient venir en France sans être inquiétés s'ils s'engageaient à ne plus commettre d'attentats sur le sol français. L'avocat de plusieurs familles de victimes a immédiatement demandé la levée du secret défense, Antoine Marette.
L'instruction dure depuis 37 ans. Des mandats d'arrêt ont été délivrés, mais les suspects identifiés sont toujours à l'étranger. Ils vivent en Jordanie, dans les territoires palestiniens ou en Norvège. Le juge français antiterroriste Marc Trévidic a délivré en 2015 des mandats d'arrêt internationaux contre eux, mais la justice n'est pas parvenue à obtenir leur extradition. Et du coup, le procès n'est pas prêt de se tenir. Pour l'avocat de plusieurs familles de victimes de l'attentat, maître Avi Bitton, les dernières révélations sont peut-être l'explication.
Ces révélations viennent expliquer pourquoi cette enquête judiciaire dure depuis 37 ans. C'est un petit peu la clé d'explication qu'on a maintenant, rétrospectivement, on comprend pourquoi cette enquête traîne depuis 37 ans.
Alors comment faire bouger les lignes dans cette affaire ? En demandant la levée du secret défense pour enquêter sur cet éventuel accord passé entre l'État français et l'organisation terroriste.
Cette information doit être vérifiée, confirmée, approfondie. Pour cela, le juge d'instruction doit interroger d'autres agents de la DST, éventuellement des hauts fonctionnaires. Le problème, c'est que ceux-ci vont lui opposer le secret professionnel et le secret défense. C'est pour ça qu'il est nécessaire que le juge d'instruction forme une demande à l'autorité compétente afin de lever le secret défense et que ses témoins puissent témoigner librement.
Maître Avi Bitton demande également la création d'une commission d'enquête parlementaire pour enquêter non seulement sur cet accord possible entre le gouvernement français et l'organisation terroriste, mais aussi de manière plus générale sur tous les accords qui ont pu être passés à ce jour par les différents gouvernements français.
Antoine Marette. Dans le Var, un ultime hommage a été rendu ce matin au maire de Signes, Jean-Michel, décédé lundi après avoir tenté d'empêcher un dépôt sauvage de gravats sur sa commune. Des centaines de personnes étaient présentes, des proches, des habitants, les élus du Var, mais aussi des personnalités politiques telles que le président du Sénat et la ministre de la Cohésion des Territoires. Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Macron n'a pas fait le déplacement directement, mais il a tenu à faire passer un message.
Oui, le chef de l'État avait déjà pris la plume pour envoyer une lettre de condoléances à la famille de Jean-Michel. Lui qui a passé tant d'heures cette année avec les maires à l'occasion du grand débat ne pouvait pas être complètement absent de cette cérémonie. Alors dans cet hommage rendu au maire du département du Var, Emmanuel Macron a aussi cherché à envoyer un signal à tous les élus locaux, message lu par la ministre en charge de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault.
Ce lundi 5 août, il était mort dans l'exercice de ses fonctions. Parce que, comme des dizaines de milliers de maires, son choix était la République, la chose commune, la vie de la cité. La République n'est pas seulement un ensemble de droits, ce sont d'abord des devoirs envers nous-mêmes et trop de nos concitoyens l'ont aujourd'hui oublié.
À titre posthume, Jean-Michel a reçu la Légion d'honneur. Il n'y a pas de petit échelon dans la République, a rappelé Gérard Larcher, le président du Sénat, également présent ce matin.
La commune, c'est la petite république dans la grande. Il y a 35 000 petites républiques pour former une seule république, une seule communauté nationale. Et c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de se rappeler que nous formons une seule communauté nationale. Et nous aurons un débat au mois d'octobre, début octobre, sur la question de l'élu, de la commune, pour que ce maire ne soit pas parti, j'allais dire simplement que le temps d'une cérémonie.
Gérard Larcher avec Mohand Chibani. Le projet de loi Engagement et proximité défendu par les ministres Sébastien Lecornu et Jacqueline Gourault sera en effet débattu à la rentrée parmi les lignes fortes. Une meilleure protection des élus face aux risques pénaux pendant leur mandat, le renforcement du droit à la formation ou encore une meilleure rétribution, notamment pour les maires dans les zones rurales.
Merci Anne Fauquemberg. L'Italie plongée dans l'incertitude après l'éclatement de la coalition au pouvoir décidée par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini hier. Des élections anticipées au plus vite et mettant fin ainsi à l'alliance entre la Ligue du Nord d'extrême droite à laquelle il appartient et le mouvement 5 étoiles populiste après 14 mois très difficiles. Quand pourraient avoir lieu ces élections? Dans quelles conditions? Avec quel gouvernement? En attendant ce scrutin, seul le président de la République, Sergio Mattarella, peut dissoudre le Parlement. Il va devoir trancher, Marie Duhamel.
En Italie, le rôle du président, plutôt protocolaire, est en revanche crucial en temps de crise. C'est lui qui devient en effet médiateur et arbitre de la politique italienne. D'ailleurs, après l'annonce fracassante du ministre de l'Intérieur hier, Sergio Mattarella fut le premier interlocuteur du chef de l'exécutif et des présidents des deux chambres du Parlement. Chacun guette aujourd'hui le moindre oracle du sage de 77 ans, ancien juge constitutionnel et président depuis 3 ans. Mais pour l'instant, depuis son palais du Quirinal, Sergio Mattarella se tait. Il ne s'exprimera qu'en cas de chute effective du gouvernement. Austère discrétion, sa retenue constante, son silence actuel sont en parfait contraste avec le tempétueux Matteo Salvini. Aujourd'hui, il est d'ailleurs le seul à pouvoir faire obstacle au chef de l'extrême droite. Si la motion de censure déposée par la Ligue faisait tomber le gouvernement, il lui reviendra de choisir entre la dissolution du Parlement et la convocation d'élections, ce qu'il préférerait éviter car elle tomberait en pleine discussion sur le budget. Autre possibilité pour lui, la formation d'un exécutif de transition, même minoritaire, même technique. Mais la charge serait alors ardue, car ce gouvernement éphémère devrait réaliser l'impossible, faire voter l'austérité en pleine campagne électorale.
Marie Duhamel à Rome pour France Culture. Le nouveau navire de SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières, l'Ocean Viking, a secouru ce matin 85 migrants au large des côtes libyennes. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, a immédiatement réagi et adressé un courrier gouvernemental. Le gouvernement de la Norvège, dont le navire bat pavillon, écrivant dans cette lettre que, je cite, « l'Italie n'est pas juridiquement tenue ni disposée à accueillir les migrants clandestins non identifiés se trouvant à bord de l'Ocean Viking ». Alors que les 121 migrants sont toujours bloqués au large de l'île italienne de Lampedusa à bord d'un autre navire, l'Open Arms, l'acteur américain Richard Gere est monté à bord pour soutenir l'action des humanitaires en apportant aussi du ravitaillement. La guerre économique et commerciale se poursuit entre Washington et Pékin. Le président Donald Trump déclare cet après-midi que les États-Unis ne sont pas prêts à conclure un accord commercial avec la Chine, évoquant même une possible annulation des discussions prévues en septembre à Washington. La chef de l'exécutif de Hong Kong a exclu toute concession aux manifestants pro-démocratie. Carrie Lam s'exprimait lors d'une conférence de presse après le déploiement d'un millier de personnes distribuant des tracts et déployant des banderoles à l'aéroport de Hong Kong ce matin. Elle a aussi mis en garde contre de graves conséquences économiques, car dans la ville, les touristes désormais se font plus rares. À Hong Kong, Angélique Forger.
Dans sa petite boutique en plein cœur d'un quartier prisé des touristes à Hong Kong, Ken, lui, 35 ans, ne vend que des vêtements à la mode. Mais ces derniers temps, les clients ont été peu nombreux.
Depuis le début des manifestations, j'ai 2 fois moins de clients qu'en temps normal. Et mon chiffre d'affaires a baissé de 30%. Mais je refuse de me plaindre. Je soutiens le mouvement car je veux le meilleur pour Hong Kong.
Les petits commerces ne sont pas les seuls concernés. La restauration aussi affiche une fréquentation en berne. Et dans les hôtels, le taux d'occupation a chuté d'au moins 10% au mois de juillet. Dans son uniforme violet, Ricky Chan, employé d'une agence de voyage, avance une explication. Ce sont surtout les touristes chinois en provenance de Chine continentale qui se font plus rares.
L'instabilité leur fait peur et ils craignent que les Hongkongais ne se comportent pas bien avec eux. Si le gouvernement ne répond pas aux demandes des manifestants, la situation ne va faire qu'empirer.
Les autorités hongkongaises sont alarmistes. Selon elles, le ralentissement économique est le pire enregistré par la ville depuis 2003.
Angélique Forger à Hong Kong pour France Culture. Hong Kong s'apprête à connaître son 10e week-end de manifestations consécutives demain. Chez Ryanair, ce sont maintenant les pilotes irlandais qui viennent de voter pour une grève afin de réclamer une hausse de leur salaire. Mercredi, les pilotes britanniques avaient déjà annoncé une grève pour les 22 et 23 août prochains. Une pression supplémentaire envers la première compagnie aérienne à bas coût. Le Brexit et l'incertitude des entreprises britanniques provoquent une baisse de la croissance britannique au deuxième trimestre. Le produit intérieur brut a diminué de 0,2% sur la période d'avril à juin, selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'Office national de la statistique. En Tunisie, 69 candidats se sont officiellement déclarés pour l'élection présidentielle anticipée, un scrutin dont le premier tour est fixé au 15 septembre prochain, scrutin qui fait suite au décès du président Essebsi le 25 juillet dernier. L'instance indépendante chargée des élections doit encore valider les candidatures d'ici la fin du mois d'août, Valérie Crova.
Deux candidats font figure de favoris, le ministre de la Défense, Abdelkarem Zbidi, et le chef du gouvernement, Youssef Chahed. Zbidi, 69 ans, se revendique de l'héritage de l'ancien président Essebsi. C'est le plus sérieux rival du premier ministre Chahed qui participera à sa première élection présidentielle. Son tout jeune parti, Taya Tounes, lancé au début de l'année, représente la deuxième force au Parlement, derrière le parti Ennahda, issu de la mouvance islamiste. Ennahda aura son propre candidat pour la première fois de son histoire. Ce sera Abdel Fattah Mourou, 71 ans, actuellement chef du Parlement par intérim. Il est l'un des membres fondateurs d'Ennahda, qui se veut aujourd'hui un parti démocrate musulman et non islamiste. Parmi les challengers, citons l'homme d'affaires tunisien et patron de presse, Nabil Karoui. Inculpé pour blanchiment d'argent, il se présente comme le candidat des plus démunis. Une femme, Abir Moussi, s'est également lancée dans la course. Cette nostalgique de l'ancien dictateur Ben Ali jure d'éradiquer l'islamisme. Enfin, un avocat représentera les homosexuels pour la première fois dans le monde arabe. Mounir Bahatour a purgé par le passé 3 mois de prison pour sodomie, puni par le code pénal tunisien.
Valérie Crova. Plusieurs milliers de jeunes militants pour le climat ont manifesté à Lausanne cet après-midi à l'appel de Greta Thunberg. La jeune Suédoise de 16 ans, devenue une icône mondiale de la lutte contre le dérèglement climatique et qui prône la grève des cours pour réclamer une prise de conscience d'urgence des dirigeants dans le monde. Et pendant ce temps, en France, dans le Haut-Rhin, à quelques kilomètres de Mulhouse, jusqu'à ce week-end, près d'un millier de personnes participent au camp climat, organisé notamment par Alternatiba, et qui propose de former les militants aux techniques de communication et de désobéissance civile des militants que Fiona Mogadam a rencontrés.
Marc et Véronique sont un couple de sexagénaires originaires de l'Île-de-France. Elle est psychologue à la retraite, lui à la tête d'une association d'éveil musical. C'est leur première fois au camp climat, même si l'écologie a toujours fait partie de leur vie.
Je suis un enfant de 68, donc c'est vrai que l'écologie, la conscience de la destruction du monde par le système consumériste, c'est comme une évidence.
Pendant un moment, c'était uniquement voter écolo. Et puis, suite à l'engagement de ma fille, qui a rejoint Alternatiba en septembre l'année dernière et qu'elle m'ait sollicité pour coudre des banderoles. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire partie des activistes qui ont bloqué la défense, etc.
Des actions de désobéissance civile que tous deux considèrent en parfaite adéquation avec leur rôle de parents.
Quand on estime que ça ne va plus dans le sens de l'humanité, eh bien oui, c'est un devoir de désobéir. Je suis fière que mes filles relèvent aussi le défi.
Et cette jeunesse, elle crie, et 1 et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. C'est hallucinant si on veut bien entendre.
Et parmi ces jeunes, il y a Marielle, 27 ans, déjà 7 ans qu'elle milite activement pour le climat. Toute sa vie tourne autour de cet engagement.
Je travaille à la base, qui est un QG de la mobilisation climat. Je fais partie d'une éco-colocation. On a pour but de vivre de façon le plus écologique possible, en produisant le moins de déchets possible et en faisant attention à tout ce qui était aussi énergie et alimentation. Il faut réussir aussi à faire pression sur le gouvernement, les multinationales qui polluent, elles, énormément. L'échelle individuelle n'est pas suffisante, ça c'est sûr.
Ce qui est certain également, c'est que la conscience climatique prend de l'ampleur. Il y avait 3 fois plus de monde cette année au camp climat que lors de la première édition en 2016.
Un reportage France Culture signé Fiona Mogadam. Le sculpteur grec de renommée internationale Takis, connu pour ses œuvres cinétiques exposées à Paris, Londres ou encore New York, York est décédé à l'âge de 93 ans. À Paris, sur l'esplanade de la Défense, il est le créateur des 49 feux multicolores qui semblent monter sur ressort au-dessus du bassin qui porte son nom. Un point de météo, des orages parfois violents signalés sur 26 départements en alerte orange ce soir sur une large diagonale qui s'étend du quart nord-est jusqu'au Pays Basque, de la grêle le long de la frontière belge aussi signalée. Sont concernés également la Bourgogne-Franche-Comté et l'Occitanie, de la pluie sur la Bretagne et la Normandie. Temps moins agité sur la région parisienne, s'est dégagé le long de la Méditerranée. Retour au calme pour tout le monde demain avec une alternance de nuages et d'éclaircies avec des températures comprises entre 18 et 30 degrés. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain rendez-vous d'actualité, ce sera le journal de 22h présenté par Mathieu Laurent.